le passage que nous venons de lire, une fois en Marc et une deuxième fois en Matthieu, est répété enfin dans toutes les quatre évangiles, différemment parce qu'il y a différents faits que le Seigneur a voulu que nous comprenions. C'est un passage qui est lu avec beaucoup de respect, mais pas souvent avec beaucoup de recherche en profondeur, parce que ça se trouve entre la mort de Christ et la résurrection de Christ, c'est-à-dire son enterrement. Bien sûr, il fallait enterrer le corps. Et bien sûr, il avait été prophétisé qu'il allait ressusciter du tombeau. À part cela, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'important et pertinent dans ce passage? Et la réponse est beaucoup. Un passage merveilleux, un passage majestueux, où Dieu, entre autres, Dieu est en train de préparer les témoins oculaires qui vont terminer par pourvoir le monde pendant des millénaires, nous sommes dans déjà 2000 ans depuis cela, avec des témoins prévus par Dieu pour confirmer la divinité de Jésus-Christ, la royauté de son être en tant que roi des rois, et ça va se faire entre la mort de Christ, sa crucifixion, et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous voulons préparer nos cœurs pour participer, en quelques minutes, de la Sainte Cène. Paul fait l'enterrement de Jésus-Christ comme une partie de l'Évangile en 1 Corinthiens chapitre 15. L'Évangile, c'est que Jésus-Christ est mort, il a été enterré, il est ressuscité le troisième jour, et ceux qui croient en cela sont illuminés par l'Évangile. Les trois témoins oculaires, le premier que nous voyons, c'est en verset 57 de notre lecture, Matthieu chapitre 27, verset 57, Joseph de Arimathée. Mon ordinateur n'accepte pas ce mot, mais il est là, même dans la parole de Dieu, plusieurs différents orthographes. Joseph d'Arimathée, Dieu a voulu que Joseph soit la personne qui va accomplir deux prophéties, au moins. Donc, par exemple, Ésaïe chapitre 53, verset 9, alors ça c'est le chapitre que beaucoup de vous le connaissez certaines par cœur, n'est-ce pas, parlant de Jésus sera brisé pour nos péchés, il va être mis à l'écart par le monde, il va être pas aimé. Nous lisons verset 9, on lui avait assigné au sépulcre avec les méchants, mais dans sa mort, il a été avec le riche. J'ai choisi le Osterwald pour montrer le mot qui est vraiment précis ici. L'homme avait prévu que Jésus soit enterré dans la vallée de Gehenne, probablement, qui était la déchetterie de Jérusalem, où il y avait toujours des feux, où tout le monde sortait de la ville pour mettre leurs déchets. Quand quelqu'un était crucifié, il a été enlevé de la croix, lancé dans un trou, ou jeté dans le feu, exprès, ça faisait même partie de leur punition. Ce n'était pas fini avant que leur corps soit déposé d'une manière le plus inhumaine, non respectueux que possible, parce que, étant crucifiés, c'est la preuve qu'ils ont commis le péché le pire possible, le crime le pire possible, et leur déshonneur ne s'arrêtait pas avant la destruction totale de leur corps. Ils n'ont pas été permis un enterrement normal, un enterrement même du tout respectueux. Dieu a voulu que, au lieu d'être mis avec les méchants, comme il a été assigné par les hommes, qu'il soit avec des riches et des gens qui sont honorés, il fallait aussi que Joseph de Arimathée soit utilisé pour accomplir ce que Jésus avait dit, qu'il allait, comme Jonas a été dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, Jésus sera aussi dans la terre. Dieu a choisi Joseph d'Arimathée pour accomplir ceci. Et puis, allant plus loin, verset 61, nous voyons un deuxième témoignage ou groupe de témoins. Nous voyons Marie de Magdala et l'autre Marie qui était là, ou au sépulcre, assise en face vis-à-vis du sépulcre. Il y avait d'autres femmes au début, apparemment ils sont tous partis maintenant, ils avaient essayé aidé dans la préparation du corps. Il reste que Marie de Magdala et l'autre Marie, c'est-à-dire la mère de Jacques et de Joseph, qui étaient à côté d'elle. Et apparemment les deux seules personnes qui plus tard vont être les deux seules personnes de voir la résurrection de Jésus. Comme vous voyez quelques versets plus loin, en verset 1 de chapitre 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, qu'on en avait déjà parlé, en verset 61 de chapitre 27, ils sont allés pour voir le sépulcre. Donc, combien de temps ils sont restés, on ne sait pas, jusqu'il faisait noir, obscurci, ils rentraient à la maison, ils revenaient très tôt, ces deux. Ils deviennent les seules personnes qui vont voir la mort de Christ, l'enterrement de Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Les seules personnes qui vont être témoins oculaires, qui en verset 9, plus loin de chapitre 28, Jésus va dire, allez et annoncez à mes disciples de se rendre en Galilée. Soyez ceux qui annoncent premièrement l'évangile. N'est-ce pas merveilleux que Dieu contrôle tout ce qui se passe pour que sa volonté soit faite? Qui est le troisième témoin ou groupe de témoins? Ça se trouve un peu plus loin, en verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation. Qu'est-ce que c'est le jour après la préparation? C'est une longue phrase pour dire samedi. Vendredi était le jour de la préparation. Chaque fois, depuis Exode chapitre 16, le jour de la préparation était le jour où ils se préparaient pour le sabbat par faire des gâteaux, par ramasser plus de manne dans le désert, par préparer tous pour qu'ils ne soient pas obligés de cuire, de se laver la maison, de faire quoi que ce soit. Vendredi était appelé le jour de la préparation. Alors, c'était le jour après la préparation où les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Et attends, je croyais qu'ils refusaient d'aller auprès de Pilate avant parce qu'ils ne voulaient pas désacrer eux-mêmes à cause de la fête qui avançait. Oui, mais ça c'était devant la foule. Maintenant, en privé, tant pis, ils étaient des meurtriers, ils étaient des gens qui voulaient éliminer Jésus à tout prix. Ils étaient des gens qui n'étaient même pas intéressé par garder son cœur d'une manière respectueuse, mais il voulait absolument que Jésus soit dénigré le plus possible. Donc, ils vont directement pour se souiller cérémonialement. Ils vont directement pour être avec, pour voir Pilate, pour dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, il le met à distance, il ne voulait pas du tout être vu comme associé avec lui, parce qu'ils étaient juifs, Jésus était juif, voilà, ça c'est un imposteur. Il avait dit, quand il était encore vivant, qu'après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusque les disciples ne viennent pas, pour que les disciples ne viennent pas dérober le corps. Et puis il dit après, il est ressuscité des morts. Ce dernier imposture sera pire que le premier. Quelle était la première? La première était l'entrée triomphale de Jésus-Christ quand il entrait et toute la foule venait et lançait les branches, les palmiers, et pour voici Hosanna, le roi, il est venu une semaine avant et maintenant il est mort. Et si ses disciples, aussi méchants que leur maître, voient qu'il est mort, ils risquent d'aller dans le sépulcre, arracher le corps, voler le corps, et l'amener quelque part, et puis prêcher qu'il est ressuscité parmi les morts. Ce n'était même pas une possibilité, parce que cette idée n'est même pas venue à l'esprit des disciples. Pour eux, quand Jésus parlait de sa mort, ils n'ont rien compris. Ils étaient comme certains de vous, n'est-ce pas? Quand vous écoutez un message, vous écoutez à un moment donné, oh ça je connais déjà, vous tournez à une autre pensée, et ça passe dans une oreille, ça sort par l'autre, ou ça passe au-dessus parce que Jésus disait beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas. C'était mystique pour eux, c'était quelque chose de mystérieux. Il parlait dans les éternités où nous ne comprenons pas. Jésus annonçait, je vais aller à Jérusalem, je vais être battu, on va cracher sur lui, on va traiter mal, on va le crucifier. Et le troisième jour, il va ressusciter. Et quand il commence à parler comme ça, clic, il va aller d'ailleurs. Ça ne se comprend pas. Sans doute, ça existe quelque part dans les spiritualités mystique, mais ça ne nous concerne pas. Il n'y avait aucun disciple qui avait 1% de crédulité que Jésus allait corporellement ressusciter parmi les morts. Par contre, les religieux, ayant entendu cela, ils ne croyaient pas que Jésus allait ressusciter, mais ils croyaient pour garder leur mouvement vivant, ces disciples de Jésus feraient quelque chose, oser prendre le corps. Alors, quand vous mettez 2 plus 2, qu'est-ce que vous voyez dans cette chose? Dieu était en train, non simplement pour accomplir ses prophéties, pour garder la crédibilité de tout ce qu'il avait jamais prophétisé en avance, et il y avait d'autres prophéties, bien sûr. Et non seulement est-ce qu'il a été en train de préparer des témoins oculaires pour que des gens voient, ayant vu Jésus mis dans le sépulcre, aussi vu la résurrection, il avait aussi préparé des gens de agir comme lui-même déterminé pour que le monde soit rassuré de l'impossibilité de aucun trucage. C'est l'ironie de ce qui s'est passé. Il voulait garder le corps pour que le corps ne soit pas volé. Parce qu'il ne croyait pas du tout qu'il serait ressuscité. Donc pour eux, c'était important que les gens ne croient pas en rumeur. Pour Dieu, c'était aussi important que les gens ne croient pas en rumeur. les scribes, les détesteurs de Jésus, voulaient rassurer qu'il n'y aurait pas de trucage. Dieu, le Créateur, le dirigeant de tout ce qui se passe, voulait aussi être que le monde soit rassuré, et nous, 2000 ans plus tard, qu'il n'y avait pas de trucage. Donc, il menait les ennemis de Christ pour appeler des gardes, sans doute 16 soldats romains, disciplinés, entraînés, pour rassurer que 2000 ans plus tard, nous savons, ce n'était pas du tout un trucage. Dieu est souverain. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose... Excusez-moi, je n'avais pas encore mis ça. Excusez-moi. Le religieux, pour assurer l'impossibilité du trucage. C'était quelque chose d'étonnant et émerveillant quand on reconnaisse la souveraineté de Dieu. Est-ce que vous croyez dans la souveraineté de Dieu, même dans les petits détails de la vie? Par exemple, dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 11, êtes-vous d'accord à trois éternels? La grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Oh, maintenant, oh Dieu, nous te louons. Nous te célébrons ton nom glorieux. Est-ce que ça c'est votre prière de croyance aujourd'hui? Ou, psaume 115:3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ou psaume 135, verset 6, tout ce que le Seigneur veut, il fait. Dans le ciel et sur la terre, dans les mers, dans les abîmes, et il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni aucun professeur à l'université, athée, ni conseil en face de l'Éternel. Ésaïe 46:10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arêtes subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. Et le verset plus connu, Nebuchadnezzar ayant été discipliné par le Seigneur, dit, le roi païen, rebelle, dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Et puis Paul, dans le Nouveau Testament, Dieu opère en tout selon les décisions de sa volonté. Même les heures sur la croix, même les heures après que Jésus remet son esprit, n'était pas tué, il a remis son esprit à Dieu son Père. Même ce qui va arriver dans les moments après, et il est très, très important, Dieu est souverain. Mais comment est-ce que Dieu agit sa souveraineté dans l'univers? Comment est-ce que Dieu agit sa souveraineté dans l'univers? Deux choses. Par deux moyens. D'un côté, Dieu utilise des miracles. Et de l'autre côté, Dieu utilise ce qu'on appelle la providence. Qu'est-ce que c'est ça? Voici une définition que j'ai essayé de faire le plus clair possible. Qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est quand Dieu interrompt les lois naturelles qu'il avait créées lui-même. Attention. Ce que vous étudiez, qui sont des lois fixes dans la biologie ou dans la physique ou dans la chimie, sont les lois de Dieu. Dieu a créé ces lois et Dieu, quand il veut, a le droit et le pouvoir de mettre à côté un peu pour intervenir, et nous le voyons, pas possible un miracle. C'est ça. C'est un miracle. C'est Dieu qui met à côté les lois, un peu comme je notais l'autre jour la facteuse qui vient tout le temps. Elle a une clé qui ouvre toutes les boîtes dans le voisinage, boîte aux lettres. Et je vois juste en face de nous, il y a cet appartement. Et chaque personne qui vient sont obligées de sortir de leur voiture, de taper des boutons, puis ça ouvre le portail. Et la facteuse est venue l'autre jour, je l'ai vue, une dame fragile, mais elle vient, et puis elle arrive sur son vélo, et puis le portail ouvre tout seul. Et j'ai constaté qu'elle a un télécommande qui fait ouvrir des choses que tous les autres habitants, ils auraient envie de voir. Comment elle a pu faire ça? C'est pas possible. Il faut qu'elle pousse les boutons. Dieu a le droit d'établir les choses dans les physiques et dans la science et sur la terre pour faire marcher le monde. Et il a aussi le droit de télécommander quand il veut entrer sans pousser les boutons. C'est ce qu'il fait. Et ça s'appelle un miracle. Il n'y a que lui qui peut le produire. Dieu agit par miracle et Dieu agit par providence. Qu'est-ce que c'est la providence? La providence, c'est Dieu qui gère les événements quotidiens, naturels, pour que sa volonté s'accomplisse à travers, et j'ai souligné, ses lois naturelles. Le monde scientifique, sans Dieu, n'est pas prêt de dire ce sont ses lois. Ce sont les lois de Mama Nature, ou de quoi que ce soit, mais ces lois, de dire ce sont les lois de Dieu, existent, qui se prosternent devant celui qui télécommande quand il veut, mais qui normalement laisse les gens pousser les boutons comme il faut. Et laisse le monde rouler comme il faut. Ce qui est en train de se faire ici, c'est exactement cela. Et donc, nous lisons en Actes chapitre 4, les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, qu'est-ce qui se passe? Il y a Hérode, il y a Ponce Pilate, qui se sont ligués contre, dans cette ville, dit l'apôtre Pierre, avec les nations et les peuples d'Israël, les païens, les romains étaient impliqués, les peuples d'Israël, eux-mêmes, les juifs, étaient tous impliqués, en fin de compte, ils se détestent entre eux, mais pour ça, ils se liguent, ils se mettent ensemble, pour déterminer de faire tout ce que la main de ton conseil avait arrêté d'avance. Wow. Et c'est ça ce qui est en train de se faire au sépulcre. Qui est cet homme, Joseph d'Arimathée? On a lu, le soir étant venu, le soir étant venu. Est-ce important ça? Très important. Qu'est-ce que c'est le soir? Le soir, c'est 15h jusqu'à 18h. Le soir, c'est les dernières 3 heures avant demain qui commence à 18h ou qui commence au coucher de soleil, à peu près 18h. Le soir étant venu, quelque chose doit se faire rapidement. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils sont très insistants. Pilate déteste ces Juifs. Il sait qu'il est comme de la boue entre leurs mains de chantage. Parce qu'il a déjà plus de marques contre lui en Rome. Les Juifs n'ont que lui donner encore une marque par rapporter certaines de ces choses qui ne plaisent pas le César. Et Pilate sera renvoyé. Mais ils l'utilisent. Ils savent que c'est eux qui conduisent. Ils ont poussé Pilate de tuer quelqu'un qu'il ne voulait pas tuer. Enfin, c'est Sanhédrin. Ce Sanhédrin, les 72 hommes qui géraient la religion juive, avaient forcé Pilate de tuer un homme innocent. Ils savaient que cet homme était innocent. Le Sanhédrin avait forcé Pilate de violer sa propre conscience. Le Sanhédrin avait donné des cauchemars à sa femme. Le Sanhédrin avait même mis Pilate dans une position de humilité pour un Romain orgueilleux. Il ne les a pas aimés du tout. Et maintenant, ils sont à sa porte encore. Il a gagné un point quand il avait tué Jésus et mis un poteau. Jésus, le roi des Juifs. Ah non! Non, le message, ça. J'ai fait ce que j'ai fait. Il a gagné un point quand même. Et maintenant, ils sont à sa porte encore. Enlève les corps, vite. Brise les jambes. Pourquoi briser les jambes? Parce que les gens s'accrochaient par les blessures. Et ils pouvaient alterner entre les deux. Quand ils commençaient à descendre comme cela, ils n'arrivaient pas à respirer. Donc, ils poussaient avec les pieds sur la blessure même qui était très, très, très pénible. Mais ils pouvaient respirer un peu. Des gens duraient pendant des jours et des jours souvent. Jusqu'à une semaine parfois. Avant de mourir. Jésus est mort, nous le savons, à 3 heures. Il meurt à 3 heures. Les Juifs insistent qu'ils brisent les jambes. Donc, si jamais il fallait précipiter la mort, ils brisaient avec un grand marteau, ils brisaient les jambes en morceaux. Parce qu'ils ne pouvaient plus pousser. Et donc, ils terminaient d'une manière très, 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 très douloureuse et très étouffée. Ils ne pouvaient plus respirer. Donc, leur mort était assurée au bout de quelques minutes au maximum. Ils ont fait ça premier. Pilate n'osait pas ne pas faire. Laisser les corps, desséquer le Pâques, le plus grand sabbat qui existait. Ça causerait une manifestation incontrôlable. Pilate, encore une fois, donnait à leur demande. Ils sont allés briser les jambes du premier, briser les jambes de celui à côté. Mais quand ils regardaient à Jésus, il était déjà mort. Et ils faisaient ça. Ils mettaient le lance dans tous. Ils brisaient les jambes, mais ils mettaient aussi le lance après. Et ils ne faisaient que ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà deux prophéties dans l'Ancien Testament, l'un dans Psaume et l'autre dans Zacharie. L'un qui disait « Aucun de ses os ne sera pas brisé ». L'autre qui disait « Ils vont regarder sur ceux qu'ils ont transpercés ». Ses os n'ont pas été brisés. Son cœur était lancé. Il est sorti du sang et de l'eau ensemble. Donc le soir étant venu, 15h, il faut absolument qu'il enlève le corps. Sinon, les soldats vont bientôt enlever les corps, parce que les Juifs insistent qu'ils soient enlevés avant 18h. Ils vont le jeter dans la Guéhenne, comme demandé par la procédure de l'exécution. Et le soir étant venu, arrivé un homme, quoi ? Riche. Il n'y a que Matthieu qui dit cela. Matthieu dit que cet homme, Joseph, était un homme riche. Ésaïe avait prophétisé 800 ans en avant qu'il ne serait pas jeté dans avec les méchants, mais il sera mis avec des riches. Arrivé un homme riche. J'aurais pu utiliser le passage en Marc, j'aurais pu utiliser le passage en Luc, j'aurais pu utiliser le passage en Jean. Mais j'ai choisi ce passage d'être notre passage principal à cause de ce mot. Un homme riche, dit Matthieu. Rien que cela, sauf qu'il était aussi un disciple. Marc dit, le soir étant déjà là, c'est une chose importante, le soir arrive. Quand arrivait Joseph, qui était de Arimathie, Joseph était un membre respecté du conseil supérieur, ou si vous voulez, du Sanhédrin. Donc, il était non simplement un membre des 72, il était un membre élevé et très respecté par les autres. Marc nous fait voir, celui qui espérait. Nous avons étudié le mot espérer. Beaucoup croyaient, moins espéraient, avec une croyance qui regardait l'avenir, sachant que Dieu va accomplir sa volonté, peu importe les circonstances. On ne sait pas ce qu'il est, comment il a espéré. Certainement pas, il ne croyait pas que Jésus ressusciterait physiquement entre les morts. Aucun des disciples croyait ça, aucun des juifs et des religieux ne croyait cela. Ils voulaient simplement protéger le vol pour qu'il n'y ait pas des rumeurs que les masses vont accepter. Mais nous savons donc par Marc, non simplement est-ce qu'il était un disciple, il était un membre respecté qui espérait aussi dans le royaume de Dieu. Et puis Luc nous dit qu'il était un homme bon et juste qui espérait la venue de Dieu. Il était membre du conseil. Il ajoute encore une troisième chose. Nous voyons de Luc qu'il était un homme de bon, il était un homme de juste. La justice doit se faire. Donc, il ne pouvait pas approuver que les autres conseillers avaient décidé de faire. Tout cela avait été des choses absolument contre les lois qu'ils gardaient d'une manière stricte, orgueilleusement stricte. Nous avons un système légal qui est sûr, qui est clair, qui est noir et blanc. Et ceux qui sont en train, c'est de briser toutes les lois, de payer des accusateurs pour dire des choses. Les gens qui représentaient le plus haut niveau de ceux qui gardaient le respect de la loi juive. Et maintenant, il agit de n'importe quelle manière, avec toute fausseté. Cet homme a pu voir cela. Pourquoi nous n'avons pas entendu parler de Joseph de Arimathée? Jean, quatrièmement, dit « Joseph était un disciple de Jésus, mais en secret. Un secret par crainte des Juifs. Écoutez, jusqu'à présent, pendant que Jésus vivait, le mot disciple est aussi en Matthieu, peut-être pas ici, j'ai pas vu, mais en Matthieu c'est un verbe que nous n'avons pas en français. Un verbe de beaucoup de dictionnaires n'ont pas non plus même en anglais, mais les chrétiens ils ont ce mot disciple, pas discipliné, mais disciple si vous voulez. Ça veut dire faire disciple, mais on a besoin de cela, parce que ce passage enseigne, Matthieu 27, que Jésus disciplait cet homme, peut-être un sur un. Nicodème est venu une fois, en pleine nuit, Jésus cherchait de faire de lui un disciple, je ne sais pas s'il est revenu une deuxième, troisième, quatrième fois, on sait au moins il est venu sept fois. Peut-être Joseph pareil, Jésus faisait disciple de cette personne, peut-être un sur un, en pleine nuit, parce qu'il ne voulait pas révéler sa foi en Jésus. Il était en secret. Écoutez, ce que Joseph aurait souffert, si jamais il était révélé qu'il était un disciple de Christ, était énorme. Il voulait être sûr que Jésus valait le coup. Ce serait la fin de sa richesse. Ce serait le fin d'être membre du Sanhédrin. Personne ne ferait des affaires, de business avec lui. Lui et sa famille seraient exclus et victimes de ostracisme. Ce serait le fin de toute la vie qu'il connaissait avant. Le prix serait très élevé et cet homme n'allait pas faire un pas de l'audace de s'identifier avec Jésus jusqu'à ce qu'il soit certain que Jésus valait le coup immense. Êtes-vous un disciple secret? Parce que vous n'êtes pas convaincu que Jésus vaut le coup que ça risque de vous coûter quand vous êtes marginalisé par vos amis, quand vous êtes ridiculisé par eux. Ici, ce n'était pas une question d'être ridiculisé. Ce qui est merveilleux, Joseph va devenir public. Et Jésus n'est pas vivant. Et il n'attend pas que Jésus ressuscite. Il va devenir public. Parce que ça ne serait plus un secret s'il monte sur la croix, s'il fasse descendre tendrement le corps de Jésus, s'il le met dans son propre tombeau, un tombeau déjà reconnu comme le lieu où sont des riches. C'est le cimetière des riches, si vous voulez. Pas de secret. Il est mort. Il ne va pas revivre, selon lui. Et pourtant, il est prêt d'aller public avec sa foi. N'est-ce pas quelque chose d'absolument surprenant et étonnant et merveilleux? Quand il vivait, il restait en secret. Il est mort. Il va déclarer sa position par rapport à Christ. Il est allé. Marc dit, il osa aller. On a lu tout à l'heure. Il a osa aller. C'est-à-dire, il se forçait d'aller chez Pilate et de demander le corps. Écoutez, il n'y avait aucune raison du tout pourquoi Pilate aurait lui donné le corps de Jésus. Un autre membre du Sanhédrin qui frappe à ma porte pour me faire chantage encore. Aucune raison. Mais Pilate l'a fait faire. Il a donné le corps de Jésus à Joseph. Et vous savez, Joseph n'était pas seul. Rappelez-vous qu'il y avait un autre homme, on a déjà parlé, Nicodème. On a entendu parler de Nicodème en Jean 3, il y a plusieurs années de cela. Il est venu par ennui, de peur des Juifs, pour poser des questions théologiques. Il est parti confus. Nicodème, ne sais-tu pas ces choses, toi qui es un leader des Juifs, et tu ne comprends pas ça? Comment est-ce que ça se peut qu'un homme puisse naître de nouveau, de rentrer dans le sein de sa mère et naître? Écoute, il est parti sans croire. Apparemment, avec plusieurs autres leçons de disciples, il est devenu, et il est prêt aussi de devenir, un disciple ouvert d'un Messie mort. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et donc, nous lisons Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe. Vous savez combien ça se fait? 30 kilos. 30 kilos des aloès de myrrhe, des parfums pour embaumer le corps de Christ. Ça ne se fait que pour la royauté. Ça ne se fait que des gens extrêmement riches. Embaumer les corps, parce qu'ils n'embaumaient pas en enlevant le sang, ils n'embaumaient qu'avec des aromates. Et ça se faisait tout le temps. Avec un peu qu'on pourrait procurer. 30 kilos. Une valeur énorme. Entre Nicodème et Joseph, ils avaient dû discuter. Va vite, tu peux acheter de ça, et moi je vais à un drap de lin. Ils sont tous les deux à accueillir des choses. Et attention, il faut qu'ils aillent vite. Il faut qu'ils descendent le corps avant que les soldats fassent descendre le corps, pour qu'ils mettent dans le feu de Gehenne. Il faut qu'ils descendent et qu'ils placent dans le tombeau aussi. Dieu a voulu qu'ils aillent rapidement, parce que Dieu a voulu qu'ils soient là 3 jours avant le coucher de soleil. Il a réussi. Ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Ça serait peut-être, pour une autre fois, une discussion pourquoi Jésus a dit 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est une question qui se pose très souvent. C'est une question que je l'avais souvent posée. Il y a une discussion. Certains disent qu'il est crucifié le mercredi. D'autres disent non, il fallait que ça soit le jeudi, parce que les 3 jours et 3 nuits, ça fait penser de 72 heures exactes. Si Christ était crucifié mercredi, il aurait fait partie de 5 jours du tombeau, un peu du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 3 jours, et un peu de dimanche, aussi Jésus est venu juste, et ressuscité juste à l'heure, au moins 4 jours. Jeudi fait le même problème. Parce qu'il est dit, il est sorti le 3e jour. Donc, je ne suis plus dogmatique. J'étais pendant quelque temps plus ou moins dogmatique pour le fait que 3 jours et 3 nuits veut dire 72 heures. Mais c'était assez commun. Par exemple, en Esther chapitre 4, vous le connaissez l'histoire, où Esther appelle des gens de jeûner pendant 3 jours et nuits, il dit. De ne manger ni la nuit ni le jour pendant 3 jours. Et puis il dit, le 3e jour, s'ils avaient fait 3 jours, il fallait que ce soit le 4e jour. C'était une manière de s'exprimer. En fin de compte, dans le Talmud, il est dit, ouvre les guillemets, un jour et une nuit fait un onna. Et une partie d'un onna que le tout. Autant qu'une journée était attachée à la nuit. Par exemple, fin de ce mois, le 28, 29, 30, notre église va faire une retraite de 3 jours. En fin de compte, c'est une partie de 3 jours, parce qu'on va partir après le culte, dimanche, on va dormir là-bas, manger là-bas, écouter un message là-bas, et puis dormir. Et puis on va passer toute la journée lundi, et puis on va dormir encore une deuxième fois, et puis on va manger, écouter un message, manger à midi et revenir à Bordeaux. Ça fait 3 jours. Non, ça fait pas 3 jours de 72 jours, mais ça fait une retraite de 3 jours. Et dans la Bible, on voit ça assez souvent, où il parle de 3 jours et nuit. Une journée qui est liée à une nuit, on arrive à Rehoboth le soir, mais on dort, ça fait un jour donc. Et puis le lendemain, ça fait un jour. Et puis on dort encore, et puis on part. C'était la pensée, c'était la manière de raisonnement des Juifs, même à l'époque. Leur journée commence à 6 heures le soir. Pour nous, c'est impensable. Même dans la Bible, le premier jour, le soirée et le matin étaient un jour. Dieu a créé deuxième jour, le soirée et le matin étaient un jour. Les Juifs pensaient comme ça. Et puis après, quand les disciples étaient sur la route de Emmaüs, ils ont dit, Jésus, on avait entendu des rumeurs que Jésus sera dans le tombeau pendant 3 jours, et il est déjà le 3e jour, mais on a entendu des rumeurs, il est ressuscité. Donc, je crois qu'il y a plus de problèmes, il ne faut pas être dogmatique, il ne faut pas baser votre foi dessus, mais il y a plus de problèmes de dire que Jésus est crucifié mercredi ou jeudi que vendredi. Parce que vendredi, samedi, dimanche, Jésus faisait partie, qui faisait aussi une partie de cette nécessité de rapidité pour qu'il prenne le corps, il place dans le tombeau avant 18 heures. J'espère que ça, c'était un peu clair. Faut pas insister, parce qu'il y a de la discussion dessus. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Chers amis, on doit arrêter parce que nous allons prendre le Sainte-Cène ensemble. Tout cela parce que faut se souvenir. Il faut se souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. Nous ne pouvons rien dire sans qu'on se souvienne. Je répète, vous ne pouvez rien faire sans se souvenir. Vous ne pouvez rien dire sans se souvenir. La raison qu'on répète, on répète, on répète la Sainte Cène une fois par mois, certaines une fois par semaine, c'est parce qu'on veut se souvenir de notre vraie raison d'existence. La raison pour laquelle Dieu avait planifié ce qu'il a planifié et manipulé toutes les circonstances et les détails de l'univers. Dieu a fait des milliers et des milliers de miracles. Mais il a fait des milliards, des milliards, des milliards de circonstances venir ensemble pour providentiellement faire sa volonté. Aucun miracle dans ce récit que nous voyons, aucun miracle dans la mort de Christ, aucun miracle dans l'enterrement de Christ. Oh, il y avait des miracles autour de Christ, après qu'il meurt, le tremblement de terre, le déchirement du voile, les gens qui sortaient du tombeau, des tombeaux et qui vivaient, ceux qui étaient morts, c'est miraculeux. Dieu a fait ça. Mais toutes les étapes de sa mort, pas de miracle. Toutes les étapes de son enterrement, pas de miracle. Mais Dieu est en train de préparer Joseph d'Arimathée pour accomplir les prophéties de David et de Zacharie. Il est en train de préparer pour que ces deux dames soient là pour voir d'une manière oculaire, pour annoncer aux autres et à nous en 2013. Il a préparé les détesteurs les plus violents, leur a manipulé jusqu'au tombeau, jusqu'à embaucher les gardes pour qu'ils accomplissent sa volonté. Et si Dieu télécommande ce qu'il veut, comme il veut, et rassure que tous les événements arrivent exactement au bon moment, pour que sa volonté s'accomplisse. Combien nous devrions tomber à genoux devant lui pour l'adorer. Et c'est ce que nous voulons faire en mémoire de lui.